J'ai réduit totalement ce qui se
passe. Oui, et pour agir au fait d'orage, en combinant les deux, de maîtriser les gens pour faire une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour cet échange d'un parole aux auditeurs. Le 8 mars de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale des droits des femmes. C'est notamment l'occasion pour les États de prendre conscience des risques que courent encore les femmes qui meurent en couche, alors que la mortalité maternelle fait partie des nombreux dangers évitables. Aussi l'occasion de rendre hommage aux femmes victimes de toutes sortes de violences. Certains observateurs estiment que la seule façon de résoudre ces problèmes est de faire face à ces défis, c'est de donner aux femmes les moyens de devenir les agents du changement. Qu'en pensez-vous? Rejoignez-nous au 081-890-7315 pour intervenir en direct dans ces magazines mis en monde par Jean-Claude Siala. Julie Pézabongonda est à la gestion du standard. Jérôme Guimbo est à la réalisation et la coordination. Et Pierrot et la Meiji vous présentent cette émission sous la supervision de Martin Seboujangwe. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-7315 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meiji.
Le secrétaire général des Nations Unies, dans ses messages à l'occasion de la célébration de cette journée, estime qu'il faut balayer les hypothèses et les préjugés du passé afin que les femmes puissent franchir des nouvelles frontières. Et pour y arriver, il faudrait qu'on arrive à donner aux femmes les moyens de devenir les agents du changement, responsabiliser la femme. C'est au centre de notre partage ces jours dans Parole aux auditeurs. Et pour en parler, nous recevons dans ce studio Mme Lucie Kibélé, ministre du Genre, Famille, Femmes et Enfants. Madame la ministre, bonjour et bienvenue.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Et j'ai dit aussi bonne fête.
Merci.
Parce que c'est le mois de la femme.
Merci.
Et vous savez, c'est pour la première fois que parle aux auditeurs reçoit la ministre du Genre, Famille, Femmes et Enfants. C'est un honneur pour nous.
Merci beaucoup.
Et dites-nous un peu comment a été la célébration, parce que c'est la célébration de la journée de la femme à RDC et aujourd'hui liée, on peut dire, à un certain type de folklore. Mais est-ce qu'on a marqué quand même une particularité dans la célébration de cette journée, cette année 2016?
Oui, je crois qu'il y a une particularité dans la fête de la journée de la femme, c'est cette fois-ci. D'habitude, les femmes ont l'habitude d'aller de mettre des uniformes, de défiler, et après, se rencontrer quelque part pour boire et partager des repas ou quoi. Et cette fois, nous avons jugé bon d'ouvrir et de commencer le mois de la femme par la prière. C'est ainsi que nous avons invité toutes les femmes, toutes les femmes confondues, pour nous rejoindre au centenaire protestant pour qu'on puisse en prier, prier pour que la paix règne dans notre pays, prier pour que la parité puisse être réalisée, parce que cette parité ne pourra pas se réaliser s'il n'y a pas de la paix. Et prier pour notre pays, pour que tous les politiques se mettent autour de la table et parler et prendre des décisions qui concernent les pays, surtout les élections.
Et quand on regarde aussi que la femme congolaise connaît beaucoup de difficultés, surtout cette femme congolaise fait face à beaucoup de problèmes aujourd'hui, l'insécurité, les violences sexuelles, pensez-vous que nous avons assez évolué dans la défense des droits de ces femmes congolaises et surtout sur le temps de violences sexuelles?
Assurément, assurément, nous avons vraiment eu des avancées par rapport aux violences sexuelles. Les violences sexuelles qui sévissent cette année 2016 ou la dernière année 2015 n'ont pas les mêmes qu'en 2001 ou en 2003. Il y a une grande différence. Il y a une grande différence parce que il y a des gens qui sont en train d'être emprisonnés, il y a des gens qui subissent des peines en prison pour 20 ans, pour 15 ans. Il y a des autres personnalités de ces pays qui sont allées en prison rien parce qu'ils ont violé, ils ont été auteurs de violences sexuelles. Il y a eu des changements, un grand changement, il y a des ambitions.
Et le secrétaire général, nous l'avons paraphrasé, qui dit qu'il faut donner aux femmes les moyens de devenir agents du changement. Et vous, au niveau du gouvernement, au niveau du pouvoir public, comment comprenez-vous ces plaidoyers de permettre aux femmes à ce qu'elles deviennent elles-mêmes les agents du changement?
Oui, c'est peu d'aller, je le comprends de cette manière. D'abord, c'est la femme. La femme doit montrer aux gens qu'elle est capable de quelque chose. La femme doit faire savoir aux politiques, faire savoir au gouvernement que non, moi, je peux faire quelque chose. J'ai l'envie d'imposer quelconque. Parce qu'en croisant les bras, en se taisant, on ne saura pas savoir si la femme a besoin de fonctionner ou d'occuper un poste quelconque. La volonté doit être doit venir de la femme. Ce n'est pas les hommes ou d'autres personnes qui vont faire à ce que la femme puisse occuper un poste quelconque. Vous pouvez rester dans un coin, vous ne faites rien qui montre que vous avez étudié et on va vous chercher là. Vraiment, je ne sais pas, ça va tomber comme de la même main, je ne sais pas. Que ce soit les femmes qui sont au Parlement, que ce soit celles qui sont au gouvernement, elles ont bousculé le rocher quelque part. C'est ça qui a fait qu'il faut s'occuper d'autres personnes. Voilà. C'est ainsi que j'aimerais dire à la femme que c'est elle, actrice du développement, c'est elle qui pourra faire qu'on puisse la prendre et la mettre quelque part.
Voilà. Voilà, nous allons écouter les femmes qui nous ont révélé dans cette émission l'honneur à la femme en ces mois de mars. Vous avez suivi, Madame la Ministre, les femmes qui est en train d'écouter Radio Capi en ces moments. Il faut que la femme puisse s'engager, il faut que la femme puisse porter sa responsabilité pour qu'elle soit elle-même agent du changement. Madame Josephine est à Boston, aux États-Unis d'Amérique. Madame Marie-Cécile ici à Kinshasa et Rachel à Kinshasa, nous allons vous accorder la parole. S'il y a beaucoup de femmes qui nous écoute, qui est dans une entreprise, vous êtes au marché partout où vous êtes au foyer en train d'écouter Radio Capi à n'importe quel moment et surtout à travers le pays. 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour nous joindre en direct. Joséphine, vous êtes à Boston, aux États-Unis d'Amérique. Merci de s'être réveillée, je crois, bien entre 4h et 5h pour intervenir dans Parole aux Unités et surtout en cette émission consacrée à la femme. Bonjour, Joséphine, et bienvenue.
Bonjour, Radio Capi. Bonjour, Pierrot. Bonjour à Madame la Ministre. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole aujourd'hui. Je suis très contente. Je suis number one, le numéro un, la première à intervenir.
Oui.
Ce que je vais dire, on parle de la journée internationale des droits des femmes. Est passé le 8 mars. J'étais très contente parce qu'on a dédié toute une journée à la femme. C'est une reconnaissance, c'est une journée mondiale. C'est la même qui ont dédié cette journée. Moi, je crois que dans le bureau ou bien dans l'assemblée là où on prenait cette décision, je suis sûre et certaine qu'il n'y avait même pas des femmes. Mais s'il y avait des femmes, les femmes n'étaient même pas représentées, même à 50%. Ce que je veux dire d'emblée, c'est partout dans le monde, les femmes subissent des discriminations et violences. Et surtout au Congo. Madame la ministre qui est là, elle a parlé, vous savez, Pierrot, moi j'aime beaucoup les chiffres. J'aime les chiffres, j'aime les statistiques. Parce que c'est à partir des statistiques qu'on peut, je ne peux pas dire juger, mais qu'on peut savoir là où on est. Où est-ce qu'on avance, est-ce qu'on recule, est-ce qu'on fait quoi. Je vais surtout parler pour le cas du Congo. Vous savez, au Congo, peut-être 1994, il y a eu la guerre à l'Est, on a tué beaucoup de femmes. On a tué beaucoup de femmes. Moi, je crois que quand on parle de 8 millions de morts, comme il y a beaucoup de femmes, je crois que les femmes, si ça fait le nombre peut être même 5 millions parmi les 8 millions de morts là. Alors, dans de nombreux pays, hein, il y a la discrimination. À part tuer la femme au Congo, le Congo est en train de pratiquer aussi une grande discrimination. Hein, les discriminations là sont inscrites tant dans le droit pénal que dans le droit civil, hein, qui est le mariage. Hein, dans le mariage, il y a une grande discrimination. Et dans l'héritage, hein, à la maison, quand il y a l'héritage, quand le parent meurt, dans l'héritage, on marginalise la femme. Je peux donner l'exemple moi-même. Hein, je suis un exemple. Mes parents sont morts. Je suis née dans une famille de 4 garçons. Je suis la seule fille. Hein, quand on devait partager les histoires, on m'a exclu totalement. Hein, vous savez, c'est très mauvais. Il y a aussi la marginalisation, là, on marginalise la femme même en propriété. La femme au Congo n'a rien. Hein, n'a rien. On va jusque très loin. Les familles n'envoient pas leur fille à l'école. Hein, la femme est là, une fille est pénètre, on la voit pas à l'école, mais à un certain âge, 18 ans, on la marie, elle n'a rien, elle n'a pas étudié. Donc, dans le mariage, c'est l'homme qui travaille, et puis elle n'a rien. Hein. Et maintenant, même dans le pays où les femmes ont pu obtenir une égalité en droit, ces égalités-là ne sont pas, ce sont des illusoires, hein, dans la pratique. La femme vraiment est marginalisée. Alors, je vais prendre cette occasion pour demander à Madame la ministre, surtout avec le cas du Congo, on peut prendre même l'exemple aussi de la radio Okapi. Il y a des émissions qui passent chaque jour. Combien de femmes appellent? Vous allez constater même aujourd'hui, hein, on sera même pas 50%. Parce que c'est quelque chose, c'est notre sujet, normalement. On ne sera même pas 50%. Ce sont les hommes. Au Congo, surtout la femme est marginalisée. La femme n'a rien. En tout cas, le gouvernement doit tout faire pour donner à la femme, à la fille, hein, la valeur. Ce n'est pas pour dire, je suis sûr et certain que les hommes vont appeler pour dire que non, comment le gouvernement doit donner la valeur à la femme. Mais il faut donner la valeur à la fille, à la femme, il faut lui donner l'opportunité. Il faut lui donner l'opportunité, comme on a pris madame la ministre, hein, comme on l'a engagée là. Il faut aller dans des lycées, comme au Congo il y a des lycées, les filles qui terminent en sixième, on leur fait des examens pour les engager. Il faut aller à l'université, cette fois-ci, aller à l'université au lieu d'engager les hommes, engager les femmes.
Oui, ça. Alors, en vous suivant, madame Josephine, en vous suivant, vous avez beaucoup insisté sur la discrimination. C'est pourquoi il y a eu beaucoup de luttes pour qu'on puisse résister notre code des familles en estimant qu'il y avait beaucoup de faiblesses, hein, qui, au niveau du code de la famille, c'est qui ne permettait pas à la femme de pouvoir accéder à un certain nombre de choses. Vous avez insisté sur la scolarisation. Je crois bien qu'il faudrait vraiment insister sur ça, la scolarisation. Et pour vous paraphraser, vous estimez que on devait donner aux femmes l'opportunité de pouvoir accéder à un certain nombre de choses. Mais pourquoi pas accorder des bourses d'études aujourd'hui aux scientifiques qui terminent l'école secondaire pour accéder à l'université, comme ça demain elles peuvent assumer des postes et des responsabilités. Mais tout ça doit aussi passer, madame Josephine, par le changement de notre regard, hein, autour de la femme dans la société. Merci beaucoup de nous avoir appelé des Boston aux États-Unis d'Amérique. Nous retournons ici à Kinshasa. Madame Marie-Cécile, nous allons revenir à vous, Excellence, les temps que nous puissions écouter encore deux autres dames, on va revenir à vous. Madame Marie-Cécile, bonjour et bienvenue dans cet échange.
Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour cette occasion que vous m'offrez pour dire un mot sur la femme.
Et vous, vous êtes engagé politiquement, je crois bien. Pensez-vous aujourd'hui que le regard a assez évolué et changé autour de l'engagement de la femme en politique, par exemple? Et qu'est-ce qui reste encore à faire, madame Marie-Cécile?
Non, moi je vois des choses autrement. Surtout la femme politique, parce que vous l'avez cité, j'ai dit que c'est là où il y a encore beaucoup de choses à voir. La femme qui fait la politique, vous savez que beaucoup de femmes n'aiment pas faire la politique. On considère la politique comme le domaine, un milieu très sale. Parce que les femmes qui font la politique n'ont pas donné l'image des femmes qui font la politique d'une façon indépendante et libre. Elles donnent l'image d'être des femmes qui sont soumises à une certaine dictature masculine. On ne les sent pas libres et on les considère elles-mêmes comme des femmes libres. Pourquoi? À tort ou à raison? Et je dis même ce que c'est à tort et à raison, parce qu'il y en a qui, effectivement, n'ont pas honoré la femme dans leurs fonctions-là. Il faut voir comment les femmes ici accèdent au poste de responsabilité. Et ça, ce n'est un secret pour personne. On dit que derrière tout grand homme, il y a une femme. Et moi, je vous dirais que derrière presque chaque femme nommée, à 90%, il y a toujours un homme. Et cet homme-là, ce n'est ni son père, ni son frère, ni son fils, même pas son mari. C'est toujours des relations floues. C'est par des relations floues que la femme accède au poste de responsabilité. C'est ce qui est dommage et regrettable. Et la femme, elle est responsable de cette situation. Elle ne sait pas se rendre indépendante. J'ai voulu commenter un peu sur ce que vous dites. Femme considérée comme agent de changement. Mais comment elle peut être agent de changement si elle n'en a pas de moyens? Je dis qu'on lui donne les moyens. Qui va lui donner ce moyen? Et pour lui donner, ça sera sous quelles conditions? Bref, aussi longtemps que l'homme ne libère pas la femme ne saura rien faire, surtout dans notre pays particulièrement. La femme est vraiment écrasée par l'homme. Et ça s'explique un peu quand nous voyons l'histoire de notre pays. Depuis l'époque coloniale, la jeune fille a eu accès, pouvait avoir accès à l'instruction à partir de l'âge de 9-10 ans. Alors que son frère, 6-7 ans, pouvait déjà fréquenter l'école. Ce retard a collé la femme à la peau jusqu'ici. Vous savez que l'université Lovanium était ouverte dès les années 54. Et la première femme y a eu accès dès les années 64-66. Plus de 10 ans. Il y avait au moins deux promotions des hommes. L'université versait déjà sur le lieu de travail. Et ces hommes ont occupé tous les postes de responsabilité. Quand la femme arrive, 14 ans, 15 ans après, trouve les postes déjà occupés. Et l'homme lui exige maintenant des choses impossibles. Et il y a deux femmes qui ont cédé et juste que ça continue comme ça. Voilà les problèmes que nous avons. Moi, je ne vois pas comment la femme peut être agent de changement et qui va lui donner ses moyens et à quelles conditions. Jusqu'ici, même pour trouver. J'ai suivi ma soeur de Boston, Joséphine, qui encourage, il faut envoyer des filles à l'école. Moi, je suis dans mon quartier ici. Des jeunes filles qui ont étudié normalement, qui ont leur diplôme de licence et qui chôment. Personne pour les engager. Et vous savez comment les engagements maintenant? Vous n'êtes pas de telle province, vous n'êtes pas engagé. Et c'est connu, il y a ces filles-là. On fait toujours crier, fille à l'école. Mais après cette école, qui s'en occupe? Elle souffre beaucoup, elle n'a personne pour s'en occuper. Et je suis triste de voir la ministre disant, qui dit même que, voilà, il y a eu changement, il n'y a pas de défilé, mais il y a eu la prière. Mais madame, s'il vous plaît, la prière, on sait ce que c'est l'opium du peuple. Voilà où vous voulez conduire la femme. Si la femme dans ce pays n'a pas évolué, c'est à cause de vos prières ici, nuit et jour, avec des pasteurs, et voilà l'église où vous êtes allé prier. Ça dit déjà tout. Ça montre déjà des orientations de madame la ministre. Avec un évêque ou un archiprêtre qui est vraiment un homme qui pouvra remplacer.
Non, mais
et là, là on... où est d'entraîner toutes les femmes.
Madame Marie, on ne va pas entrer dans les considérations des engagements politiques, de savoir qui, quel religieux soutient qui. Mais c'est important, mais vous avez dit beaucoup de choses qui sont très très profondes, qui sont très importantes. Vous avez dit, juste aujourd'hui, la femme, l'homme n'a pas encore libéré la femme. Et ça, vous avez raison. Parce qu'il y a aujourd'hui les hommes qui posent des conditions pour permettre aux femmes de pouvoir accepter à un certain nombre de responsabilités, à un certain nombre de choses. Au-delà de toutes les considérations politiques, vous estimez que la responsabilité, c'est l'homme aujourd'hui qui n'a pas encore permis de libérer la femme et pour lui donner des moyens, mais aussi faciliter les conditions à cette femme de pouvoir accéder à tout ce que nous avons dit, au-delà de toutes les autres considérations autour de la religion, autour de la prière, des engagements politiques. Alors, on va, avant de revenir dans ce studio pour écouter Madame la Ministre, nous avons encore une jeune dame qui nous a appelé tout à l'heure de Kinshasa. Rachel, vous êtes avec nous. Bonjour, Rachel.
Bonjour, monsieur. Bonjour, c'est à l'invité.
On vous écoute, Rachel.
Merci pour la parole. Moi, je voudrais commencer d'abord par dire que ce qu'il ne faut jamais savoir, que c'est la femme qui donne la vie. Alors, arrêtons de faire semblant comme si on ne sait pas ou on ignore. Alors, ce que je vais dire est que pourquoi on peut commencer à exiger la femme sans pourtant le laisser montrer ce qu'elle est capable. Je parle de la discrimination. Souvent, on voit des hommes en train de minimiser la femme, de marginaliser la femme. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas encore laissé une chance de montrer ce qu'il peut faire, ce qu'il est capable de le faire. Moi, je vais vous dire que j'ai un ami qui m'a toujours dit que non, moi, je ne saurais pas voir ma femme travailler, rentrer le soir, de même que moi, je rentre le soir et ma femme rentre le soir à la maison. Bon, il me disait que la femme va, donc, elle va plus respecter l'homme parce que la femme travaille, elle amène aussi l'argent, tout ça. Oh, la femme serait plus soumise. Non. Là, je peux dire, la soumission, donc, la femme naît avec. C'est une chose qui est dans la femme. C'est pas le fait que la femme, si elle travaille, elle sera plus soumise à l'homme. Non, non. Alors, on aimerait bien que les hommes aussi nous accompagnent. C'est ce que nous avons besoin. Nous avons beaucoup besoin que les hommes nous accompagnent, nous encouragent. Et avec l'encouragement des hommes,
voilà. Merci.
Oui.
Et Rachel, vous avez dit qu'il faudrait que les hommes encouragent et accompagnent la femme, ça c'est important, mais il faut quand même un changement de regard hein, au niveau de la conception des préjugés que nous avons. 081-890-6315. Madame Joséphine, vous êtes à Kinshasa, vous gardez la ligne, on va revenir en vous le temps que Madame la Ministre puisse placer un mot sur ce qui a été dit tout à l'heure par les autres compatriotes. 081-890-6315.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Réseau Capé vous propose la cuisine de la presse. Analyse, explication et débat autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La cuisine de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapé.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et Amélie.
Madame Lucie Kibélé, ministre du genre famille, femme et enfants, vous êtes avec nous dans ce studio. Vous avez suivi les compatriotes qui sont intervenus, Madame Joséphine de Boston, Madame Marie Cécile de Kinshasa, Rachel de Kinshasa. Il y a quand même des choses qui se rencontrent dans leur point de vue. Quel mot vous voulez placer par rapport à ce qu'ils ont dit tout à l'heure?
Non, merci Pierrot. Je vais commencer d'abord à répondre à Madame Joséphine de Boston. Selon ses dires, je comprends qu'elle est veuve ou bien elle était veuve. Quand son mari est mort,
on ce sont ses parents. Quand les parents sont morts, on l'a exclu totalement de l'héritage.
C'est ça. Je lui dis que pour le moment, vraiment, au Congo, le temps révolu. Pour le moment, nous avons notre code de la famille en vigueur qui est en train d'être réalisé au Parlement. J'ai vraiment la conviction de d'ici 2 mois ou bien 1 mois, ce code de la famille sera révisé. Une fois révisé, je crois que tout ce dont on a parlé n'aura plus place. Parce que le gouvernement congolais, donc les femmes congolaises, sont en train de lutter pour que tout ce qui lui est arrivé, tout ce qui est arrivé à leur famille, ne puisse plus arriver à d'autres personnes qui auront quand même perdu leurs parents, tout ça. Et qu'elle ne soit pas un pessimiste, elle a parlé de mariage précoce des enfants. Je sais que le gouvernement congolais avait lancé une campagne contre le mariage précoce des enfants depuis le mois de mai 2015. Et il y a eu des programmes ad hoc pour sensibiliser la jeune fille. Ma première sortie, quand j'avais pris la fonction en septembre, au mois d'octobre le 15, j'étais au lycée Botanico pour sensibiliser les jeunes filles contre le mariage précoce. J'espère qu'elle n'est pas au pays, mais il y a des choses qui se font au pays. Les femmes qui sont là ne dorment pas. Ces femmes sont aussi debout, elles sont oubliées. Et si elles sortent les droits de leurs enfants, et si elles s'assurent prochainement les enfants, nos enfants ne tombent pas dans le même piège que nous. J'espère que j'ai répondu pour madame Josephine de Boston. Concernant madame Marie-Cécile, elle a parlé de la politique, les femmes font des choses sales dans la politique.
Et elle estime que les femmes qui ont accédé au poste de responsabilité n'ont pas défendu convenablement la femme dans ses postes de responsabilité.
Elle a parlé de ça, bien sûr, mais c'est dans la vie privée de ces femmes. Elle a dit qu'elles font des choses sales, c'est pas bon. Moi, je peux dire que moi, telle que je suis, elle ne sait pas comment je suis entrée en politique. Je veux dire que je n'ai rien fait. Je n'ai corrompu personne, je n'ai fait rien de ça pour être en politique. Ce n'est pas toutes les femmes qui font n'importe quoi. Et moi, je crois que tout ça s'est révolu. Quand nous grandissions, on attendait, on apprenait que nos aînés qui faisaient la politique faisaient n'importe quoi. Mais pour le moment, j'espère que c'est quoi? C'est l'intelligence ou bien le quoi? Le savoir-faire de la femme qui peut quand même lui donner la propice. Ce n'est pas dire qu'on peut faire n'importe quoi, tout ça, en tout cas, je n'en crois.
Mais quand je parle de conditions et de moyens, il faut que la femme devienne elle-même agent de changement. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que les pouvoirs publics ont mis à la disposition de la femme assez de moyens?
On ne donne pas de moyens. Vous-même, vous allez vous battre. Moi, je suis là. Est-ce qu'on m'a donné le moyen? J'étais au Parlement pendant la transition. J'y suis restée jusqu'à aujourd'hui. Je suis devenue ministre. Est-ce qu'on m'a donné le moyen? On s'organise, il faut s'organiser. Il faut se battre là où on est. Mm-hmm. On se bat. On peut avoir quelque chose au retour. C'est ça. Notre gouvernement ne met jamais de l'argent ou des moyens à disposition des gens pour venir prendre, aller battre la campagne. Non. On peut aussi avoir beaucoup d'argent et puis on échoue. On est sous élection.
Mm-hmm.
Ce n'est pas l'argent qui fait qu'on puisse voter pour quelqu'un. D'abord, vous, là où vous êtes là, qu'est-ce que vous faites à la base? Est-ce que vous prenez à la base? Est-ce que vous êtes gentil avec les gens? Voilà, c'est ça. Votre enfant, c'est comment? Votre famille se comporte comment? C'est ça. Nous avons vu des gens qui avaient beaucoup d'argent qui nous ont échoué. Ils avaient de l'argent, mais ils ont échoué. L'argent ne fait pas tout.
Mais quand madame Marie-Cécile insiste sur l'homme ne veut pas libérer la femme, mais pour arriver vraiment à ce que l'homme change son regard sur la femme et lui permettre de s'épanouir, quelle est la part des responsabilités de la femme elle-même dans cette
vie? Moi, je ne comprends pas bien s'il s'agit de quel homme, hein. S'il parle des décideurs politiques ou bien de l'homme, le mari, je ne sais pas. Qui peut me libérer? C'est mon mari ou bien c'est qui? Non! Je ne comprends rien, peut-être que je n'ai pas compris sa question, sa préoccupation.
Bon, c'est presque ce que Rachel disait tout à l'heure, qu'il y a des préjugés, on estime que la femme ne doit pas travailler, ne doit pas être libre.
Là,
voilà.
Ce sont des femmes qui baissent les bras devant ses maris, parce que moi j'ai étudié. Je dois travailler pour le bien-être de mon foyer, le bien-être de ma famille. J'ai une famille. L'homme ne saura pas couvrir tout ce qui est besoin de ma famille. Nous devons travailler ensemble comme ça. Le foyer sera quand même, va vivre à l'aise. Comment est-ce qu'un homme peut refuser à sa femme de travailler? Est-ce qu'il va couvrir les moyens? Il va répondre à tous les moyens de famille, je ne sais pas. Et quand les femmes arrivent à accepter, ça montre quoi? Parce que la femme peut dire non, moi je respecte pas ça. La femme pose aussi la condition. Et parfois, l'homme aussi va l'écouter, il va respecter.
En disant ça, ce qui veut dire que la femme doit se défendre, oui. Elle doit s'engager.
Oui, elle a raison. Moi, je me rallie à elle. La femme doit s'engager. Elle doit se défendre. Tu vas baisser les bras devant l'homme pour dire oui, toi, tu ne travailles pas. Toi, tu es capable de quelque chose. Parfois, tous les gens sont licenciés. Parfois, vous avez fait le même faculté. Maintenant, lui, il est en train de travailler. Quel argent? Mais vous travaillez. Pour quelle raison? Donc, si c'est marié à vous, ça montre qu'il avait confiance en vous. Comment vous le dire, vous ne travaillez pas? Là, vous allez travailler. Vous allez faire quoi là-bas? Les femmes doivent vraiment mettre leur mari en place pour discuter et vraiment avoir quand même le temps d'aller travailler.
Voilà, merci. Vous avez ajouté cette question de la discussion. Madame Joséphine, vous êtes ici à Kinshasa. Alors, le regard de l'homme aujourd'hui dans notre société, il est parti. Vous l'avez suivi, Madame Marie-Cécile disait tout à l'heure, même l'accès aux études, l'accès à l'université, depuis l'histoire, l'homme avait toute cette région, elle estimait que la femme pouvait jouer un second rôle. Alors, pour arriver à changer ses regards, Madame Joséphine, qu'est-ce qui doit être fait? Bonjour et bienvenue dans cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Je crois que pour arriver à changer cette situation, nous devons plus sensibiliser l'homme à connaître le droit d'abord, parce qu'il y a un vrai problème par rapport à la connaissance des droits humains. L'homme ignore que la femme a le même droit humain que lui. C'est ainsi qu'il traite la femme comme étant un individu de second rang, ou bien une femme qui est une personne de seconde zone. Et c'est comme ça qu'il faudra d'abord sensibiliser l'homme, aider l'homme à connaître le droit et sensibiliser, donner des exemples par rapport à ce que la femme peut et ce que l'homme peut par rapport aussi à la volonté de Dieu qui a créé l'homme et la femme à son image. Je crois que c'est un travail qui a déjà commencé et qui doit continuer par rapport aux différentes générations, afin de pouvoir amener l'homme à prendre la femme comme étant son autre moi, son autre ego, pour éviter les discriminations. Donc, il faut vraiment des campagnes de sensibilisation pour les changements des comportements.
Mais pensez-vous que les campagnes de sensibilisation qui sont adressées aux hommes sans que la femme elle-même soit aussi impliquée dans la conception de ses propres droits, ça peut être plus efficace si la femme elle-même dans la société n'arrive pas, on ne lui donne pas le moyen de pouvoir se défendre elle-même et de pouvoir défendre ses propres droits?
Oui, la femme elle est victime de plusieurs préjugés, plusieurs... habitudes, office et coutumes qui fait que des fois elle est timide, elle est considérée comme si elle ne connaît pas ses droits. Mais les droits, ce sont les droits humains, ce sont les droits inhérents à la nature humaine. Moi, je ne vois pas comment la femme, elle doit ignorer ses droits. Je crois que ce sont les habitudes de la famille, de la société qui ont fait que la femme est traumatisée, elle est intimidée et elle ne sait pas comment revendiquer ses droits alors que ce sont les droits qui sont naturels. Alors pour cela, nous devons aider la femme aussi à comprendre qu'elle a le même droit que l'homme et qu'elle est créée à l'image de Dieu. Elle est créée avec tout ce qu'il y a comme organes nobles, les cœurs, les reins et tout comme un être humain. Nous avons tous le même droit et la Déclaration universelle des droits de l'homme est très claire là-dessus. Et c'est question d'aller vers cette femme-là qui souffre, qui subit les poids de la coutume et des autres préjugés liés aux présenteurs socioculturels, il faut aller vers elle pour la libérer, alors dans tous les milieux, même dans les milieux les plus reculés. Et c'est comme ça qu'elle comprendra, parce qu'elle ignore, quoi. Elle n'a pas beaucoup d'informations, c'est pourquoi elle accepte de vivre cette situation.
Ça, c'est important. Merci beaucoup, Madame Josephine Kinshasa. Il y a le problème de l'ignorance qui fait que les femmes ne savent pas défendre dans ses droits et l'ignorance des hommes aussi hein, par rapport à ces droits de la femme, comment le respecter. Il faut aller vers l'un et l'autre, l'homme et la femme, et faire ce travail de sensibilisation. Merci beaucoup. Pascaline, vous êtes à Arou. Arou, c'est dans l'ancienne province orientale démembrée, comme on appelle. Bonjour Pascaline et bienvenue.
Bonjour monsieur le journaliste. Bonjour à madame la ministre, bonne fête de femme.
Merci. Bon, j'ai dit merci, bien, c'est notre fête à nous. Mais dites-moi, Pascaline, à Kinshasa, c'est la capitale, peut-être on a un autre regard hein, sur la femme aujourd'hui, les efforts qui sont fournis. Et à Arou, quel est le tableau que vous dressez d'une manière brève dans cette émission par rapport à la situation de la femme à Arou?
Bon, à Arou, le tableau généralement est sombre parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes.
Dommage. Je crois qu'il y a un problème de ligne téléphonique. Je crois bien que c'est ça, de ligne téléphonique avec Arou, alors qu'on aurait bien aimé avoir ces explications de Pascaline. La réalisation peut voir comment recontacter Pascaline pour qu'elle nous... Elle parlait déjà des tableaux sombres, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Bon, on n'a pas suivi la suite, on pourra peut-être la récupérer. Mais en attendant, on retourne à Kinshasa. Je crois bien que c'est un homme qui nous a rejoint dans cet échange. Bénin, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Merci vraiment de vous joindre à cette fête de la femme. Vous avez suivi, que ce soit Joséphine, que ce soit Marie-Claire ou bien Rachel, que ce soit tout à l'heure Joséphine de Kinshasa, on estime qu'il faut que le regard de l'homme aussi change sur la compréhension des droits de la femme. Pensez-vous aujourd'hui que l'homme a beaucoup évolué dans sa conception de la femme, des droits qu'il faut lui accorder dans la société bénin?
Justement, je suis motivé à vous appeler pour réagir à cette émission par rapport à ces réactions de toutes les dames que vous venez de citer. Mais moi, je leur donne seulement un seul conseil que, comme l'émission nous demande de moyens et de ce que nous pensons pour promouvoir la femme, pour moi, le premier moyen porteur de résultats adéquats, qui soit vraiment important pour moi, c'est le comportement des femmes elles-mêmes. Parce que la dignité et tous les avantages que nous allons leur accorder dépendront de leur combat. Donc la dignité s'arrache, il ne faut pas qu'elles pensent qu'il faut toujours dire les hommes pensent non. Elles doivent se battre pour arracher leur dignité et leurs valeurs. Et le gouvernement, enfin je ne parle pas du gouvernement, je peux même parler le chef de l'État, a donné beaucoup de moyens, beaucoup d'occasions à toutes ces femmes de démontrer de quoi elles sont capables. Ça c'est par rapport à Angèle qui a dit qu'il faut donner aux femmes les forces et l'occasion pour démontrer de quoi elles sont capables. Mm-hmm. Mais le président actuel a vraiment donné l'occasion, beaucoup d'opportunités à des femmes, sans parler celles qui sont au Parlement. Il y avait Madame Mayuma au cabinet, Madame Mabunda, nous avons Agnès, Aline Cesse. Je ne peux pas trop citer, il y a Carole au niveau de son âge, tout ça. Toutes ces femmes travaillent bien et nous attendons d'autres leur emboîter le pas. Et puis, celle qui est au plateau là-bas, c'est une femme, elle est ministre. Voyez comment elle trouve comme méthodologie la prière pour interpeller ses consoeurs le jour de la femme. Ça, ce n'est pas normal. Le jour de la femme a été gagné par un combat, c'était une révolution aux États-Unis. Mais ce n'était pas par la prière. Donc, il faut vraiment que les femmes nous demandent de quoi elles sont capables. Moi, j'ai résumé les domaines où les femmes doivent se battre. Nous avons vu, par exemple, le domaine de la musique. Mais Madame la ministre ne voit pas comment les jeunes filles dansent à demi-nu. Est-ce que les hommes ont dit, si vous ne dansez pas nu dans mon orchestre, je vais vous chasser? Non, elles se laissent affaiblir. Je parle aussi de la politique. Monsieur le journaliste, c'est rare de voir les femmes créer des motions chaudes comme nous voyons les hommes interpeller les ministres, elles sont là assises pour acclamer. Ça, c'est, je m'assume. Donc, nous avons aussi le domaine de l'information, par exemple. Même dans nos familles, même avec les femmes politiques, il y en a qui préfèrent les séries télévisées plutôt que le journal. Et nous avons des conflits dans des foyers qu'on sort où il y a que l'homme qui dit, écoutez, vous avez suivi vos séries, laissez-moi la place pour le journal. Et puis aussi, il y a le sport. Madame la ministre est là. Je n'ai pas suivi sa réaction quand les léopards d'âme venaient d'être dépaysés récemment ici. Les hommes nous ont amené la coupe. Les jeunes femmes se battent aussi pour faire quelque chose, mais elles sont dépaysées. Elles n'ont rien parlé. Moi, je pense que les femmes ont raison. Nous devons, nous les hommes, aussi les encourager et changer le regard, comme vous le dites. Mais la première responsabilité incombe à elles-mêmes. Et puis, sans vous mentir, moi, j'apprécie bien certaines femmes politiques. Surtout de l'opposition dans leur combat. Il y a Mme Bazaïba, Mme Nkoimafuta au Sénat, tout ça. Vous voyez qu'elles sont un peu modèles, pas seulement parce qu'elles appartiennent à un camp politique, mais elles savent se battre devant les hommes pour donner des causes. Nous avons aussi, même au niveau du PPRD, la secrétaire générale, elle a bien travaillé. Mais que les femmes en boîte n'est pas assez là, elles ont déjà beaucoup de modèles que le chef de l'État accorde le moyen. Pourquoi elles se plaignent et tournent toujours vers l'homme? Au sujet de la violence sexuelle, c'est Madame Mabunda qui elle-même qui est au volant. Et le résultat, c'est d'elle que nous attendons. De toute façon, je me résume, j'ai dit, les dames, nous devons les aider en tant qu'hommes. Mais ça ne m'engage que moi. Le combat l'air à passer elle-même pour arracher. Ça s'arrache. Et j'insiste bien sur le verbe arracher. Même quand nous aimons les femmes. Mais quand les femmes que nous avons à la maison, vous commencez à dire non, monsieur, je ne veux pas, moi je suis. Mais il faut insister et ça s'arrache comme ça. Donc elles doivent représenter la scène également comme ça et se battre au lieu de toujours pleurnicher. Mm-hmm. Madame la ministre est au plateau là-bas. Ça, c'est la 100e célébration des journées de la femme. Et qu'elle lui dit non, il faut prier, nous avons. Non, ce n'est pas la prière. Interpeller vos consoeurs dans tous les secteurs. Ce ne sont pas seulement les femmes intellectuelles, même celles qui sont au marché, les mamans maraîchères là. Quand elles vendent à même le sol ou dans le corps et consorts, mais ce sont aussi une sorte de limité. Est-ce qu'il est interdit de leur dire, ok, nos consoeurs, à même le sol, il y aura des microbes, peut-être ici, ou peut-être chercher à faire des petites étables. Donc, il y a plusieurs secteurs, mais le secteur qui est cible, c'est que la femme elle-même combatte pour arracher.
Pour arracher. Merci beaucoup, Bena. Merci beaucoup, Bena, pour votre intervention. Je retiens ce que vous avez dit. Hein. Arracher vient aussi de les dire qu'il faut que l'homme accompagne. C'est vrai, l'homme doit accompagner la femme dans ses combats. Et la femme doit arracher, mais il ne faudrait pas que les hommes disent, mais écoutez, ça je ne donne pas, nous n'accordons pas ces droits à la femme. Nous allons voir comment elle va se battre pour arriver à ça. Non, c'est pourquoi on dit qu'il faut l'accompagner. Mais vous estimez que la responsabilité aujourd'hui, c'est que la femme doit se battre. Il y a déjà beaucoup de femmes qui sont modèles. Et vous avez cité le chef de l'État qui a permis quand même à ce niveau-là d'accorder beaucoup de postes de responsabilité aux femmes. Et elles sont modèles. Les autres peuvent les copier, mais aux différents niveaux de la vie. Amos, on vous écoute rapidement. On revient dans ce studio pour écouter Madame la Ministre. Amos, vous êtes à Bukavu, un homme encore qui vient de se joindre à nous. Amos, bonjour. Et bien, Amos, vous êtes avec nous, bonjour. On a des petits soucis des lignes avec Amos de Bukavu, mais en attendant, est-ce que Maître Elodie est avec nous, la réalisation? Maître Elodie, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Merci. Avant qu'on récupère Amos de Bukavu, on vous écoute, Maître Elodie. Vous avez suivi Bena tout à l'heure qui disait que les femmes ne doivent pas attendre que les choses, la liberté, les droits, l'air soient amenés sur un plateau, il faut qu'elles se battent. Et quand on dit que les femmes se battent, c'est quoi ça revient hein, dans les émissions, dans les débats? Ça veut dire quoi au juste pour vous que la femme se batte pour arracher?
Je crois que mon prédécesseur, monsieur Bena, a bien dit. Et c'est ça qu'il faut. Et c'est ça dont on a besoin, d'entendre ces hommes-là qui comprennent qu'il y a une lutte que les femmes elles-mêmes doivent mener. Et que les femmes doivent comprendre que c'est à elles, il leur appartient de se battre pour faire valoir les droits des femmes. Voilà. Mais ceux qui doivent se battre, il faut qu'elles aient des forces. Et il a dit quelque chose de très important. Il faut que les femmes qui sont à des postes de responsabilité, de décision, puissent beaucoup se battre pour les autres. Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a pas de force de se battre. Vous connaissez les conditions dans lesquelles nos braves femmes vivent. Donc, ce sont des femmes qui se battent pour leur survie, pour les survie, la survie de leur famille. Et il appartient à ceux qui ont des moyens, ceux-là. À qui l'État a donné la responsabilité, à qui la société a donné la responsabilité et la charge de défendre les autres femmes, je ne sais pas très pour elles. Je vais vous donner, Madame la ministre, avec tout le respect qui est au plateau, je vais inviter d'autres femmes qui peuvent, qui ont un mot, qui peuvent visiter, d'aller voir, de visiter les femmes qui vivent à Pakadouma. Pour voir, Pakadouma, c'est un quartier connu de Kinshasa, pour voir dans quelles conditions ces femmes sont. Et il n'y a pas que elles. Et c'est dans la capitale, il y a des milliers de femmes qui vivent dans des conditions inhumaines et dont les autres femmes qui sont, qui peuvent parler pour elles ne disent absolument rien. Et qu'est-ce qu'on peut compter? Parce que c'est la majorité, à 70%, si je peux dire dans ces termes, sans pour autant maîtriser les chiffres, c'est à 70% des femmes qui sont dans l'incapacité, dans l'impossibilité de défendre leurs droits, de se battre pour leurs droits. Que pouvons-nous espérer? Il faut qu'on soit réaliste, mes chers collègues femmes. On doit être réaliste, on ne peut pas espérer vraiment une parité ou une égalité des chances dans une société où à 70% des femmes qui ne peuvent pas se battre pour leurs droits et celles qui sont censées, qui doivent se battre pour les autres, ne le font pas assez, il faut qu'on le dise. Ça, c'est une chose qu'il faut dire. L'autre chose, c'est attaquer le problème en amont. Il y a le problème de scolarité qui pose toujours problème. Combien de filles sont à l'école aujourd'hui sur combien de garçons? Ça veut dire que le problème déjà qu'on vit aujourd'hui, il ne faut pas qu'on soit étonné que chaque jour, parce que c'est la 15e journée des droits de femmes qu'on célèbre. Il ne faut pas qu'on soit étonné que 10 ans après, ou 5 ou 10 ans après,
ça reste le même problème. Si le problème n'est pas résolu
à un moment, c'est l'accès à la scolarisation. Voilà. Et ça, c'est important. Maître Elodie, c'est important. Il faut se battre pour scolariser la fille. Et ça, c'est le combat du gouvernement. On a vu des campagnes avec l'UNICEF à tout moment dans nos familles pour que la fille puisse aller à l'école. Je reviens à vous, madame la ministre. Il y a quand même un homme qui a dit oui, il faut se battre. Il y a quand même un accompagnement de l'homme, c'est important. Et ici, il a évoqué, et même madame Elodie le dit, la responsabilité des femmes qui ont eu à accéder à certains nombre de choses, s'ils peuvent être à mesure de pouvoir donner les moyens aux autres femmes de se battre et de pouvoir défendre ce droit.
Merci beaucoup. J'accepte que les femmes doivent se battre pour accéder à leurs droits. Mais ici, il faut demander à d'autres femmes qui sont élevées de faire quelque chose. Moi, je ne peux pas parler à leur place. J'en prends bon nom de tout ce que madame ministre a dit à la fin. Je voudrais répondre à l'autre monsieur qui a précédé, c'est monsieur qui?
Bénin.
Monsieur Bénin. Bon, j'accepte ce que monsieur Bénin a dit. Mais je suis un peu désolée. Je suis un peu désolée. Pourquoi? Parce que nous avons des divisions différentes. J'espère que le mois de la femme, ce n'est pas seulement le 8 mars. C'est tous les mois de mars. C'est ce qu'on appelle mois de la femme. Le 8 mars nous a donné les pas, l'ouverture de tout ce qui va commencer
comme activité.
Alors moi qui prie, moi je connais le Seigneur, j'ai des témoignages, pour ce que le Seigneur fait pour moi. J'ai décidé avec les autres femmes pour qu'on puisse dédier cette journée à l'Éternel. Et je sais que toutes les femmes qui étaient avec moi étaient d'accord avec moi. On a fait la différence. Tout le monde a
appuyé,
tout le monde a jubilé. Il n'y a aucune femme qui était contre. Et même si nous sommes au plateau, il y a des femmes qui peuvent dire que oui, c'était ça le palier. Moi, je ne vois pas pourquoi.
Non, c'est parce que les gens sont habitués, ils ont la peur de déclarer qu'on trouve la prière comme si c'était
ça. Ça va, nous allons perdre. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on a prié, qu'est-ce qu'on va faire? On a la journée d'aujourd'hui, jusqu'au 30, jusqu'au 8 février. On a commencé le 8 mars. Peut-être qu'on va clôturer le 8 avril, pardon. Le 8 avril. Est-ce qu'on n'aura pas réalisé des ateliers, des sensibilisations,
voilà.
Ne seront pas quoi pas.
Voilà.
Moi, je ne pense pas qu'on peut dire que non, pourquoi on a prié pendant cette journée. Non, chacun sa vision de voir les choses. Monsieur le ministre de la Femme, Famille, Enfant, j'ai dit bon de prier pour ce pays, prier pour que la parité aussi soit concrétisée.
Voilà, ça c'est important. On ne va pas peut-être vraiment répondre à toutes les questions autour de la prière. Mais Maître Lodi a insisté sur les conditions dans lesquelles les femmes se retrouvent aujourd'hui. Et en bref, avant d'écouter les deux autres dames qui nous ont rejoints, quels sont les efforts au niveau du gouvernement aujourd'hui pour arriver quand même à faire changer ces conditions de vie difficiles de la femme en bref?
Bon, le gouvernement aussi est en train de se préparer pour se faire autoriser la femme à l'agriculture de résilience. Donc, le gouvernement se bat, que ce soit nos partenaires, que ce soit le ministère au Sénat, pour voir comment on peut autoriser la paix.
Mais ça, c'est important. Et nous avons rebondi sur ça pour revenir appeler maman, madame. Voilà, madame Marie Luzumbo, merci de nous avoir appelé dans cette émission. Madame la ministre disait tout à l'heure, vous êtes ici à Kinshasa, qu'il faut arriver à autonomiser la femme, ça c'est important. On a évoqué ça dans les différentes célébrations. Et pour vous, madame Marie Luzumbo, comment on doit autonomiser la femme pour lui permettre à ce qu'elle soit acteur, disons, agent de changement, comme l'ont souhaité beaucoup d'intervenants. Bonjour et bienvenue dans cet échange.
Merci beaucoup, JR, pour la question. Vous savez que moi, j'ai toujours lutté pour le droit reproductif de la femme.
Mm-hmm.
Vous savez que pour autonomiser la femme, il faudrait que cette femme-là soit en bonne santé.
Mm-hmm.
Et qu'est-ce que nous constatons dans notre pays? Quand nous regardons les indicateurs de l'EDES qui ont été publiés en 2013, en rapport avec le ratio de mortalité maternelle, en tout cas, tous les indicateurs presque sont au rouge. Il y a 3 femmes qui meurent par heure en voulant donner la vie.
Mmh.
Et ces indicateurs se résument. On a 846 femmes qui décèdent en voulant donner la vie pour de causes évitables. Et les nouveau-nés, un enfant qui n'a rien fait, qui vient au monde, qui décède. Mais comment on va autonomiser cette femme pendant que les conditions dans lesquelles ces femmes vivent ne sont pas confortables? Vous trouverez qu'il y a dans beaucoup de structures, les structures ne sont pas équipées, les structures n'ont pas assez de médicaments, les structures n'ont pas des outils, voire même des prestataires qualifiés et compétents que peuvent prendre la femme qui présente des problèmes. Et ces femmes-là meurent parce qu'il n'y a pas un prestataire qualifié. Nous ne devons pas confondre la ville ou les chefs-lieux de province avec les femmes qui sont en périphérie, parce que parfois on se cantonne à donner les médicaments, les équipements aux structures qui sont en ville. Mais les femmes qui sont en périphérie ne sont-elles pas femmes comme toute autre femme? C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, faisons quelque chose parce que chaque femme compte. Il y a des sérieux problèmes au niveau de notre secteur.
Mm-hmm.
Il y a quelqu'un là qui avait dit, à quoi bon parler de la journée internationale de la femme. Et pourtant, il y a la Constitution qui a fait dans ses articles 11, 12, et j'en passe. Il y a un grand fossé entre les dires et la mise en œuvre.
Oui.
Oui.
Mm-hmm.
Il y a un grand fossé. Mm. Donc, le pays doit respecter les engagements auxquels il avait souscrit au plan international, au plan national et au plan national.
Mmh. Et là, vous avez dit, c'est important, Madame Marie-Louise Mbeau, vous avez insisté en tant que médecin, bien sûr, vous avez insisté sur l'aspect de la santé. Pour la femme. On ne peut pas arriver à autonomiser la femme si on ne lui permet pas d'avoir des bonnes conditions d'accès à la maternité. D'ailleurs, on l'envoie évoquer dans le message du secrétaire général des Nations Unies que les femmes qui meurent en donnant la vie, ce sont des choses qu'on peut éviter. Pour vous, il faut que la femme ait accès aux soins de santé, et cette femme pourra être très très utile pour la société. Merci beaucoup, Madame Marie-Louise Mbeau. Nous restons à Kinshasa. Mamie, il est là. Merci de nous avoir rejoint, chère consoeur. Merci d'être avec nous dans cet échange. Bonjour et bienvenue.
Merci, bonjour, Pierre.
Et quand on voit aujourd'hui les femmes des médias comme vous, quelle est votre part des responsabilités pour arriver à faire de femmes les agents du changement?
En fait, il y a, merci beaucoup pour cette opportunité. Le problème aussi, c'est au niveau de la femme, hein, parce que la femme doit aussi exprimer ses ambitions. Et il y a beaucoup à faire. Tout n'a pas été vraiment fait parce que, au regard même de 50% qu'on a employé, cela n'a toujours pas été jusqu'à ce jour.
Mm-hmm.
Madame la ministre Lucie Kintele qui me suit en copie, sera d'accord avec moi quand j'ai dit que dans le gouvernement, il y a plus de 40 membres du gouvernement, mais il n'y a que 7 femmes. Et pour ça, les femmes ne s'en plaignent pas, hein. Elles constatent, elles voient, et elles attendent leur tour. Même au niveau du Parlement, il y a moins de femmes et ça continue. Quelque part, ça ne nous amène pas au niveau que l'on voudrait avoir pour faire de cette journée de la femme une journée de combat contre les injustices, les violences, toutes les sortes de violences dont la femme connaît ici dans notre pays. Donc, il reste beaucoup à faire, sensibiliser la femme, parce que même pendant la période électorale, il a été démontré que la femme ne vote pas pour la femme, et c'est terrible.
Mm-hmm.
C'est un gouffre terrible qui dérange, qui fait mal. Alors il faudrait peut-être, d'une manière ou d'une autre, que si les femmes se mettaient ensemble, je suis sûre qu'on se retrouverait dans beaucoup d'espace. Et pour le cas qui est le mien dans le domaine de la chronique musicale, je suis très heureuse de vous dire que c'est un domaine qui est rempli de femmes.
Mm-hmm.
On peut dire ce qu'on peut dire, mais les femmes se sont battues pour s'imposer. À une certaine époque, nous avons eu Maman Nguedi, Maman Sandoval, le pionnier dans la chronique musicale, et puis ça s'était arrêté. Mais là, maintenant, les femmes se sont imposées dans la chronique musicale. Moi, je félicite, mais par contre, dans d'autres domaines, il reste encore beaucoup à faire. Il faut aussi que les femmes se soutiennent, qu'elles se soudent.
Mm-hmm.
Et je voudrais particulièrement là remercier Madame la ministre pour le soutien qui a été le sien lors du karaoké de la paix, organisé par les femmes des médias. Elle a été avec nous. C'était une initiative pareille, de comportement pareil, cette façon de vivre avec les femmes que nous encourageons.
Merci.
Madame la ministre, merci beaucoup.
Merci, Mamie Lélan. Nous vous remercions aussi pour cette prestation. C'était très intéressant, l'interprétation de musique. Nous avons aimé ça. Nous vous félicitons aussi pour ce travail. Amos, vous êtes désolé pour vous. Vous n'avez que 30 secondes, Amos. Résumez tout ce que vous avez à dire dans 30 secondes, parce que là, cinéma, il faudrait être notre. Alors voilà, c'est fini, on n'a pas à mort. C'est Madame la ministre, vous avez suivi les uns et les autres, c'est les deux minutes des conclusions. Il y a quand même un auditeur qui nous a envoyé un message pour dire, pour lui, vous avez 3% sur les budgets alloués à votre ministère. Pensez-vous qu'avec ces faibles moyens, selon l'auditeur, pouvez-vous arriver vraiment à accomplir votre mission de faire ce travail de la défense du droit des femmes, et c'est aussi votre mot de conclusion.
Merci, merci beaucoup. Je le remercie parce que c'est quand même 2-3% sur le budget des écoles.
C'est difficile vraiment de tenir avec ça.
Et aller se comprendre, ce n'est pas moi qui peux allouer quelque chose pour mon ministère, ça vient du gouvernement, nous précisons.
Mais Maïmaï, il le disait tout à l'heure, cette femme au gouvernement, les femmes trouvent que c'est suffisant, elles ne respectent pas. Battez-vous pour qu'on augmente votre budget.
Mais c'est tout le monde qui se bat, que ce soit celles qui sont en dehors du gouvernement, que ce soit qui sont dans les gouvernements, c'est tout le monde.
Quand même qu'on
se bat, quand même, nous devons comprendre qu'on se bat pour avancer la loi sur la parité. Moi, je me dis qu'avant toute chose, il faut avoir un subvention juridique. Maintenant que la loi est votée depuis le 1er août 2015, j'espère que le président de la République, le défenseur des femmes, à qui je rends l'hommage le plus déférent pour le moment, il ne manquera pas quand même de penser à cette loi. J'espère qu'il pourra aller volo, surtout nous sommes dans un pays qu'on appelle un grand continent. Je voulais même parler
rapidement,
à madame la médecin, la femme médecin qui avait parlé concernant
l'accès aux soins.
Je ne comprends pas pourquoi on peut avoir, je ne vois pas la relation entre l'utilisation de la femme et le décès des femmes qui sont en train de mourir suite aux naissances. Quoi.
En fait, elle voulait dire qu'on ne peut pas autonomiser la femme si elle n'a pas accès aux soins et qu'elle meurt en donnant naissance.
On peut l'autonomiser parfois si elle a son argent. Et les médecins, ils savent ce qu'ils font. Ce qu'ils font à l'hôpital. Si on n'a pas l'argent, on n'a pas de soins.
Et en bref, pour conclure, un mot pour conclure.
En un mot, je vais dire qu'on se bat. La loi sur la parité est là. Notre président, il est quelqu'un qui doit penser aux femmes et que les femmes aussi puissent se défendre, s'engager. Pour s'engager, il faut demander quelque chose, on va passer à vous.
Merci. Merci beaucoup, madame, d'avoir accepté notre invitation. C'était pour nous un plaisir de vous recevoir dans ce studio. Merci à toutes les dames. C'était une émission exceptionnelle. 80% des femmes sont intervenues. Je crois que ça va continuer aussi demain, hein, quand on va parler d'autres questions qui ne touchent pas aux femmes. Les femmes vont pouvoir intervenir. Merci à toutes les équipes de production des paroles aux auditeurs. Et coordination, Jean-Claude Dessala, la mise en onde de Julie Fézabongonda, assurer les contacts avec les auditeurs. Pierrot Lamé, je vous la présenter sous la supervision de Martin Soudjan. Les paroles aux auditeurs sont aussi sur www.radiocapi.net. Au revoir.